Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1992, Les règles de l'art est un essai majeur de sociologie de la littérature. Pierre Bourdieu y étudie la formation du champ littéraire français au XIXe siècle. En particulier, le moment où la création cherche à conquérir une autonomie relative face aux pouvoirs politiques, aux académies et aux impératifs commerciaux. Le livre prend notamment Flaubert et L. Éducation sentimentale comme point de passage pour relier analyse des œuvres, histoire sociale et études des institutions. Son objectif ne consiste pas à nier la singularité des écrivains, mais à expliquer les conditions collectives qui rendent certaines inventions esthétiques possibles et reconnues. Bourdieu décrit un univers de positions concurrentes, occupé par auteurs, éditeurs, critiques, revues et écoles, où se disputent la légitimité et la définition même de la valeur littéraire. Dans ses méthodiques, cet ouvrage propose ainsi une science des conditions de production, de circulation et de consécration des œuvres, plutôt qu'une lecture fondée sur le seul mythe du génie individuel. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le champ littéraire comme espace de position et de lutte, Bourdieu appelle champ littéraire un espace social relativement spécialisé, dans lequel les agents ne produisent pas seulement des livres, mais aussi les critères qui permettent de les juger. Auteurs, éditeurs, critiques, journalistes, institutions scolaires et académies y occupent des positions inégales. Ces positions dépendent des ressources disponibles, notamment du capital économique, du capital culturel, des relations et de la reconnaissance accumulée. La concurrence ne porte donc pas uniquement sur les ventes ou la célébrité immédiate. Elle porte aussi sur le droit de dire ce qui compte comme littérature, sur la hiérarchie des genres et sur les formes de consécration jugées légitimes. Cette approche remplace une opposition simpliste entre créateurs libres et sociétés contraignantes. Un écrivain agit, choisit et innove, mais ses choix prennent sens par rapport aux possibilités ouvertes ou fermées dans son univers professionnel. Une rupture esthétique peut être une prise de position dans une lutte déjà structurée. Le champ explique ainsi pourquoi des œuvres très différentes entrent en conflit. Pourquoi certains publics et médiateurs comptent davantage que d'autres, et comment une valeur culturelle apparemment pure résulte aussi de rapports sociaux durables. Deuxièmement, la conquête de l'autonomie contre État, académie et marché, l'enquête historique met au centre la lente autonomisation de la littérature au XIXe siècle. Dans un univers peu autonome, les critères politiques, moraux, académiques ou commerciaux pèsent fortement sur ce qui peut être publié et valorisé. La conquête d'autonomie désigne la capacité croissante du champ à produire ses propres normes de jugement. Elle ne signifie pas une indépendance totale à l'égard de la société, ni une disparition des contraintes économiques. Elle désigne une situation où la reconnaissance par les pairs, la fidélité à une recherche formelle ou le refus des attentes dominantes peuvent devenir des ressources spécifiques. Bourdieu insiste sur le paradoxe de cet ordre, les positions les plus autonomes sont souvent les moins rentables à court terme, tandis que le succès commercial peut être regardé avec défiance dans certains secteurs. Cette opposition entre logique économique et logique symbolique organise une grande part des conflits littéraires. Elle aide à comprendre comment des revues, des petites maisons ou des groupes d'avant-garde peuvent exercer une influence disproportionnée par rapport à leurs moyens financiers. La littérature se définit alors aussi par ses refus, ses frontières et ses modes propres de consécration. Troisièmement, Flaubert et la relation entre invention formelle et conditions historiques. Flaubert occupe une place décisive dans le livre, non comme illustration biographique isolée, mais comme cas permettant de penser le lien entre une œuvre et la structure du champ. Bourdieu examine comment le projet esthétique flaubertien se situe dans une période de concurrence entre littérature commerciale, art social, institutions consacrées et recherche plus autonome. L'analyse refuse deux réductions opposées. Elle ne ramène pas le roman aux circonstances extérieures, mais elle ne traite pas non plus sa forme comme le produit inexplicable d'une conscience souveraine. Les choix de style, de genre, de distance narrative et de sujet sont rapportés à un espace de possible littéraire. Cet espace est constitué par les œuvres antérieures, les adversaires, les attentes du public et les institutions de jugement. Dire que Flaubert est produit par le champ auquel il contribue revient donc à décrire une relation réciproque, les conditions du moment rendent son entreprise intelligible, tandis que cette entreprise transforme les critères disponibles pour les écrivains ultérieurs. Cette méthode montre que la forme littéraire peut contenir, sous une forme transposée, les tensions sociales et esthétiques de son temps. Quatrièmement, le marché des biens symboliques et la production de la valeur. Une idée essentielle du livre est que la valeur d'une œuvre ne réside pas seulement dans un texte considéré isolément. Elle est aussi produite par un ensemble de médiations, publications, critiques, lectures savantes, enseignements, prix, réputation des éditeurs et mémoire littéraire. Bourdieu parle de biens symboliques pour souligner que les œuvres circulent dans des échanges où le prestige, la croyance et la reconnaissance ont une efficacité réelle. Le marché concerné ne fonctionne pas comme un marché ordinaire. Un livre peut avoir peu de lecteurs au départ et acquérir plus tard une forte valeur symbolique, tandis que la rentabilité immédiate ne garantit pas une reconnaissance durable. Les agents du champ ont intérêt à faire reconnaître leurs critères comme universels, alors même que ces critères sont liés à leur position. Cette observation éclaire le pouvoir des instances de consécration sans les réduire à une simple manipulation. La croyance dans la valeur de l'art est collective et s'appuie sur des institutions, des habitudes de lecture et des classements partagés. L'analyse permet donc de comprendre pourquoi les débats esthétiques sont aussi des luttes pour imposer une hiérarchie et pourquoi la réception fait partie de la vie sociale d'une œuvre. En dernier lieu, une méthode relationnelle contre le mythe du génie isolé, les règles de l'art se distinguent par une méthode relationnelle. Au lieu de chercher une cause unique dans la psychologie de l'auteur, dans son milieu social ou dans le contenu de son livre, Bourdieu reconstruit les relations entre trajectoires individuelles, institutions, genres et positions concurrentes. Cette démarche mobilise implicitement des notions centrales de sa sociologie, telles que habitus et capitaux, mais les met au service de l'analyse littéraire. Les dispositions acquises orientent les ambitions et les goûts des écrivains, sans déterminer mécaniquement leurs actes. De même, les contraintes du champ limitent les options, mais fournissent aussi les enjeux contre lesquels une innovation peut se définir. La conséquence critique est importante. Analyser les déterminations sociales ne revient pas à dissoudre la création dans le contexte. Il devient au contraire possible de préciser ce qui fait la nécessité et la portée de choix formels singuliers. Cette méthode invite à étudier ensemble les textes et les conditions de leur existence publique. Elle fournit aussi un outil transférable pour examiner les autres univers de production symbolique, notamment le journalisme, les arts visuels ou le monde académique, tout en exigeant de respecter la logique propre de chaque domaine. En conclusion, les règles de l'art conviennent principalement aux étudiants, chercheurs et lecteurs déjà familiers de sociologie, de théorie littéraire ou histoire culturelle. Il intéressera aussi les personnes qui souhaitent comprendre comment se fabrique la réputation des auteurs, le prestige des genres et les frontières entre littérature savante, succès commercial et avant-garde. La lecture demande de la patience, le vocabulaire conceptuel est dense et la démonstration privilégie la reconstruction historique plutôt que la vulgarisation. Son bénéfice intellectuel est cependant précis. Elle donne des instruments pour dépasser les explications qui attribuent une œuvre soit au seul talent individuel, soit au seul contexte social. Le lecteur apprend à observer les médiateurs, les institutions, les concurrences et les formes de croyances qui rendent une œuvre visible et durablement légitime. Par rapport à une histoire littéraire centrée sur les grands auteurs ou à une critique exclusivement interne des textes. Le livre se distingue par son ambition de relier les formes esthétiques à la structure d'un espace de production. Par rapport aux essais généraux sur la culture, il offre une enquête historiquement située, organisée autour de la formation du champ littéraire français et du cas Flaubert. Cette articulation entre analyse de œuvre, sociologie des institutions et théorie générale des champs explique sa place durable dans les études littéraires et dans la sociologie de la culture. Si vous souhaitez soutenir Pierre Bourdieu, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.